VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par la RDC. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU ira bientôt dans le pays pour réclamer une date pour la présidentielle. Les détails avec Eddy Sango.
La délégation onusienne se rendra du 10 au 14 novembre à Kinshasa, Goma et Beni pour rencontrer le président Joseph Kabila, des responsables de l'opposition et de la société civile. Les Sénégalais Fode Sek, président du Conseil de sécurité pour novembre, souligne que la RDC est dans un contexte de plus tendu et que le Conseil a jugé utile de se rendre sur place avec un message de dialogue intercongolais. L'Angolais Ismaël Gaspard Martens estime pour sa part que le président Kabila doit terminer son mandat et laisser quelqu'un d'autre être élu. La transition doit s'effectuer de manière ordonnée pour ne pas créer un vide déstabilisant, avertit l'ambassadeur angolais aux Nations Unies. De son côté, les Français François Delattre est d'avis que l'élection doit se tenir dès que possible et dans le plein respect de la Constitution. Le mandat de M. Kabila, au pouvoir depuis 2001, arrive à son terme le 20 décembre et aucune date officielle n'est avancée pour la tenue des nouvelles élections.
RDC toujours, la direction générale de la BGSI Bank a démenti les révélations du journal belge Le Soir sur l'opacité de la gestion des fonds des élections. Il est question de malversation et de blanchiment de fonds et l'on mentionne la CENI, la Commission électorale nationale et le président Kabila entre autres. L'un des responsables de la BGSI Bank s'étonne des amalgames faits dans la presse. On écoute Abdelkader Diop, directeur adjoint.
Monsieur le Président de la République n'est pas client de BGFI Bank. Concernant le tour de table du capital, je sais simplement qu'il y a des privés congolais qui détiennent 40%. Moi, je suis un salarié de la banque. Je ne suis pas un actionnaire. Donc, je ne participe pas à l'Assemblée générale de la banque pour savoir qui vient et qui ne vient pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai le nom des actionnaires. Il n'y a pas de Kabila. Il n'y a pas de Kabila. Il n'y a pas de Kabila et ça, c'est vérifiable. Simplement, quand on parle de blanchiment, il s'agit d'argent sale venu d'autres personnes et qui l'injecte dans le circuit financier. Nous ne sommes pas dans ce cas. La CENI reçoit son argent du gouvernement. Et on dit même que les retraits effectués par la CENI sont des opérations de blanchiment. Là, j'avoue, je ne comprends rien parce que le blanchiment se fait à l'entrée de l'argent sale dans le circuit financier, mais pas à la sortie. Moi, je suis une porte de sortie. Une fois que ce n'est pas rentré par mon canal dans le circuit financier, on ne peut pas me reprocher d'être coupable ou que j'ai participé à une opération de blanchiment.
Abdelkader Diop, directeur adjoint de la BGSI Bank en RDC. Au Congo-Brazzaville, le gouvernement a adopté un projet de loi qui crée le statut de chef de l'opposition. Les autorités veulent que le tenant de ce titre soit le leader politique dont le parti a le plus d'élus après la formation au pouvoir. Si certains opposants comme Pascal Tsati Mabiala et Guy Brice Parfait Kolela saluent cette initiative, d'autres y voient plutôt une manœuvre du gouvernement pour contrôler les opposants. De Brazzaville, les précisions de notre correspondant Nguela Ngoussou.
Selon la future loi, le chef de l'opposition sera celui dont le parti dispose le plus de lui au Parlement. Pascal Tsati Mabiala, le premier secrétaire de l'UPADS, première formation de l'opposition représentée à l'Assemblée nationale, se frotte plutôt les mains.
C'est nouveau dans notre législation.
Et tout le monde nous regarde, Kolela, c'est moi. Non, la loi ne dispose que pour l'avenir. Ce n'est pas les situations actuelles qui sont acquises, où moi j'ai un nombre important de députés, relativement important par rapport au MPDDI, mais ce n'est pas ça. Le calcul ne sera pas fait sur la base de la situation actuelle, mais des prochaines élections législatives qui auront lieu en 2017. C'est-à-dire qu'après le parti majoritaire, le parti qui viendra après, ça peut être l'UPADES, et je souhaite, moi je veux que nous soyons le premier. Pourquoi vous voulez que je sois moi de l'opposition? Moi, l'objectif est que je sois le premier.
La frange de l'opposition, qui n'est pas représentée dans les institutions, craint d'être emportée par cette nouvelle loi. C'est pourquoi elle insiste sur la pluralité de l'opposition. Pour Clément Mirassa, seule l'organisation prochaine du scrutin législatif sans contestation peut amener à la désignation consensuelle du chef de file de l'opposition.
Tout ça a un problème de fond. C'est l'organisation dans ce pays d'élections libres, démocratiques et transparentes. Élections qui ne seraient contestées par personne. et qui devrait être organisée par une commission nationale électorale véritablement indépendante. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a le sentiment que c'est le pouvoir qui s'organise pour avoir y compris la mainmise sur la prétendue opposition. Il y a ceux qui ont pris acte, il y a ceux qui ont reconnu, il y a ceux qui ne reconnaissent pas. Si je prends déjà les 5 candidats, vous connaissez bien les points de vue des uns des autres. Donc, à mon avis, c'est une question qui doit être regardée calmement, que le chef de l'opposition soit un véritable opposant.
Avec un regard de recul, l'analyste politique Timothée Makita estime que le projet est bon, quitte au futur chef de l'opposition de rassembler.
Je pense qu'il faut être positif et se dire, ce personnage, une femme ou un homme qui sera choisi pour représenter l'opposition avec toutes les prérogatives qui vont avec ce statut, doit savoir qu'il est là pour représenter toute l'opposition dans sa diversité, dans son caractère pluriel. Donc si le gouvernement légifère, il revient à l'opposition de s'organiser de telle manière qu'aucune frange de cette opposition ne soit laissée au bord de la route.
Si Tsatsi Mabiala et Guy Brice Parfait-Kolela rapprochent leur point de vue sur la question, d'autres leaders de l'opposition voient là une nouvelle manœuvre du pouvoir visant à les contrôler. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique du Sud, le Parlement sud-africain examinera le 10 novembre à la demande de l'opposition une motion de défiance contre le président Jacob Zuma après la publication de rapports sur des accusations de trafic d'influence exercées par une riche famille d'hommes d'affaires dans la désignation des membres du gouvernement. Le point avec Nani Talani.
Le rapport de Tuli Mondosela, ancienne médiatrice de la République, a finalement été publié hier sur ordre de la justice. Il pointe de lourds soupçons de collusion entre l'exécutif et la riche famille Gupta d'origine indienne. Il dénonce par exemple les 7 visites de David Van Rooyen, alors député de l'ANC, à la résidence des Gupta à Johannesburg, y compris la veille de sa nomination surprise au ministère des Finances en décembre 2015. Le rapport revient également sur les affirmations du vice-ministre des Finances, Ntsebisi Jonas, qui a assuré en mars que les frères Gupta lui avaient proposé de prendre le portefeuille du Trésor. La médiatrice s'étonne que l'exécutif n'ait jamais mené d'enquête sur ces affirmations. D'autres ministres sont épinglés comme Mossé Benzi Zouane, titulaire du portefeuille des mines. Il avait effectué fin 2015 un voyage privé en Suisse aux côtés des Gupta qui négociaient à l'époque le rachat d'une mine de charbon en Afrique du Sud. Ce déplacement est qualifié de contraire aux règles d'éthique. Pour conclure, l'ancienne médiatrice recommande au parquet et à la police d'ouvrir des enquêtes.
Présidentielle américaine 2016, le président Barack Obama défend la candidate démocrate Hillary Clinton face au récent développement de la controverse concernant les emails de Mme Clinton. Les détails avec Timothée Donongmaï.
Le chef de l'exécutif a assuré que Mme Clinton a commis une erreur honnête dans l'affaire des emails, laissant entendre que les électeurs ne doivent pas se laisser influencer par les révélations selon lesquelles le FBI enquête à nouveau sur ces emails à quelques jours du scrutin. Le président Obama, qui commentait pour la première fois cette affaire, s'est gardé de critiquer le directeur du FBI, James Comey. Il a tout de même souligné que lorsqu'une enquête est en cours, on n'agit pas sur les bases d'insinuations, d'informations incomplètes ou de fuites, mais sur la base des décisions concrète. Il faut dire que M. Obama a adopté une démarche prudente ici, ne voulant surtout pas donner l'impression d'une ingérence de l'exécutif dans le processus judiciaire. Sur un terrain beaucoup plus familier, le chef de l'exécutif américain a averti que le vote par anticipation est en recul chez les Africains américains, une situation qui pourrait nuire aux efforts de Mme Clinton pour lui succéder, a-t-il souligné, tout en se félicitant de l'engouement noté chez les électeurs hispaniques.
Plus de 25 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation. Côté républicain, le candidat Donald Trump exhorte les Américains qui l'ont fait et qui ont voté pour son adversaire démocrate Hillary Clinton à changer leur suffrage. Mais ce ne sera pas chose facile. Certains États comme le Wisconsin, le Minnesota, la Pennsylvanie et le Michigan permettent un tel changement, mais le délai pour le faire est en train d'expirer. Selon les responsables électoraux, il y a peu de chances que Trump soit écouté dans la mesure où très peu d'électeurs changent leur vote. Sur le terrain, Hillary Clinton et Donald Trump multiplient les meetings électoraux à l'approche de la présidentielle, car les sondages se resserrent à quelques jours de l'élection du 8 novembre. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.